oriental. J'ai réfléchi totalement ce qui
s'est passé. Moi, c'est l'une de vos compagnies au fait d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, c'est-à-dire que les précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bon début de semaine en compagnie des Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange citoyen. À la cérémonie d'ouverture du dialogue politique à Kinshasa le jeudi 1er septembre dernier, Vital Kamerhe, président de l'UNC et co-modérateur du dialogue, a sollicité la suspension des travaux le week-end en vue de mener une mission de bons offices auprès des autres plateformes de l'opposition ayant refusé de participer à ces forums. Par ailleurs, dans une déclaration rendue publique le jeudi dernier, le gouvernement mexicain affirme que l'ouverture du dialogue national à Kinshasa est une importante occasion accordée aux acteurs politiques et à la société civile de déléguer un consensus sur la voie à suivre en RDC. Qu'en pensez-vous? Résignez-nous au 081 890 75 pour votre intervention en direct. Jean-Noël Mokondo est à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Julie Fezamonda qui en assure également le standard. Et Pierrot et la Meiji vous le présente sous la supervision de Julien Yamouni. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Rappelons que c'est le jeudi 1er septembre dernier que les travaux du dialogue national se sont ouverts ici à Kinshasa, à la cité de l'OIA. Et pour ce faire, les travaux ont été suspendus pour le week-end qui est à pouvoir mener des missions, des bons offices auprès d'une autre tranche de l'opposition qui n'a pas rejoint ces dialogues. Rappelons quand même plusieurs activités diplomatiques se sont déroulées en fin de semaine avec la visite à Kinshasa du président de l'administration des Sud du Congo, Brazzaville, qui a rencontré le chef de l'État, Joseph Kabila, et le président du comité des sages du rassemblement, M. Tshisekedi ou à Moulumba. Et par ailleurs, lors de la cérémonie d'ouverture, Vital Kamerhe, président de l'UNC et co-modérateur du dialogue, avait sollicité que les travaux soient suspendus pendant 48 heures le week-end, qui savoir comment mener des missions, des bons offices auprès d'autres plateformes pour pouvoir convaincre les uns et les autres à rejoindre le dialogue. Mais bien sûr, le lancement de ces forums a été salué, et dans un communiqué, les gouvernements américains déclarent que c'est une occasion accordée aux acteurs politiques et à la société civile de dégager un consensus sur la voie à suivre à RDC. Le même message a été souhaité et réitéré aussi par le secrétaire général des Nations Unies. Mais un point clé réside encore dans ce dialogue, c'est le caractère inclusif qui a amené l'opposition républicaine de suspendre sa participation. Alors, comment commentez-vous cette actualité? Comment arriver plutôt à formaliser tout le vœu de voir ces dialogues amener les uns et les autres au consensus? C'est la question au centre de notre échange. Et nous recevons dans ce studio pour en parler Étienne Vivian Kalonji, qui est politologue, chercheur en résolution non violente des conflits. Étienne Vivian Kalonji, bonjour.
Bonjour, très cher patriote, héros et la musique.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le monde est d'accord qu'il faut dialoguer. Que ce soit ceux qui étaient opposés au dialogue, mais qui ont pu mettre sur la table des préalables, et ils sont d'accord qu'il faut dialoguer, parce que cette question des consensus, quand même, revient dans les souhaits, que ce soit des Congolais et de la communauté internationale. Alors, comment vous réagissez d'abord depuis le lancement des travaux jusqu'en ce moment que nous sommes dans ce studio?
Oui, en fait, au départ, il faut retenir d'abord que le dialogue, dans notre approche en tant que chercheur à la question des résolutions non violentes des conflits, le dialogue est un mécanisme de régulation des conflits dans une société. Il doit être permanent dans le chef de toutes les personnes qui composent la classe politique de notre pays, ainsi que même dans nos milieux sociaux. Mm-hmm. Raison pour laquelle on ne peut que soutenir l'avènement du dialogue pour prévenir les conflits. Parce que les conflits, quand ils commencent, je ne sais pas comment ça se termine, et ça entraîne beaucoup de dégâts collatéraux. Voilà pourquoi les hommes les plus réfléchis soutiennent beaucoup plus le mécanisme du dialogue. Mais à ce stade, il est tout à fait un peu inquiétant de voir que la question dialogue telle qu'elle est abordée par notre classe politique ici est abordée dans le sens de la défense des différents groupes d'intérêt. Or, dans ce que nous voyons, dans le fond même intrinsèque du concept du dialogue, c'est-à-dire, on veut certainement trouver une solution à l'amiable avec un compatriote dès lors qu'on trouve qu'il y a un blocage ou il y a une crise qui s'annonce dans l'horizon. Voilà pourquoi, quand on va dans un dialogue devant un patriote, on s'amène avec sa conscience devant la gravité des problèmes qui se présentent à l'horizon. Et quand on s'amène avec sa conscience, on fait appel à la raison. À la raison, pourquoi? Parce que le Congo, notre pays, continue à patauger dans la médiocrité, comme j'aime bien le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces problèmes que nous pouvons les résoudre entre nos patriotes en voyant la grandeur du pays dans lequel le Seigneur nous a donné la grâce d'appartenir et qu'on se résume tout simplement dans une sorte de mesquinerie d'esprit où chacun d'entre nous essaie de développer son ego au travers de la préservation de ce qu'il a déjà comme acquis, comme intérêt.
Et quand on voit, alors, peut-être maintenant tout le monde souhaite que les dialogues s'étiennent, les consensus, le respect de la Constitution, la résolution 22-77, tout cela est déclaré. Les uns et les autres estiment qu'il faut quand même qu'on arrive à pouvoir dégager une piste de solution pour la sortie des crises. Mais le problème aujourd'hui, qu'on se le dise, il se bloque au niveau où les uns estiment que les préalables qui ont été présentés n'ont pas été résolus, mais les autres estiment qu'on peut aller en espérant que les autres viennent. Est-ce qu'il y a aussi un piège dans le sens que les dialogues tant souhaités pour résoudre la crise ne puissent devenir lui-même aussi je peux dire un moteur de la crise elle-même, ou soit accentuer même la crise aujourd'hui?
C'est ce qui se profile déjà, ce qui se présente déjà, très cher patriote Pierrot, se présente déjà que le dialogue risque de devenir encore une des origines de la crise qui va s'annoncer d'ici là, lorsque l'obligation du constitutionnel ne sera pas peut-être respectée. Voilà, ce qui se présente que pour aller dialoguer, il faut ici voir, nous sommes devant quelle situation donnée? Nous sommes devant une majorité qui est au pouvoir et une opposition. Et qu'est-ce que demande l'opposition? Parce que la crise telle qu'elle se présente, c'est la crise entre la majorité et l'opposition. Et cette majorité qui voit déjà qu'elle est dans l'impossibilité d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, plaide pour la tenue d'un dialogue pour qu'il se dégage un consensus. Mais l'opposition aussi, à son tour, trouve qu'avant que je parte dialoguer avec vous, il y a lieu ici qu'on puisse décrisper un peu la situation sociopolitique de notre pays. Nous qui avons toujours plaidé pour, ça c'est l'opposition, nous qui avons toujours plaidé pour la résolution pacifique ou non-violente des conflits, nous exigeons que nos compatriotes qui ont fait cette exigence, tout un plaidoyer, sont aujourd'hui en train de croupir dans la prison. Nous exigeons qu'avant qu'on soit sur une table de négociation, que ces compatriotes soient d'abord relâchés. C'est noble. Et quand on va avec sa raison et sa conscience, je ne vois pas pourquoi on doit tergiverser pour résoudre ce genre de problèmes.
Mm-hmm. Voilà, on va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs Alain Boloudia, Itaï Kiro, Félicien Kinshasa, Olivier Folo, ici à Kinshasa, 081-891-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiookapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiookapi.net. Allez-y, on vous attend.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Alain, vous êtes avec nous d'Isiro, en province de Haut-Uele. Bonjour Alain.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tout le monde, surtout bonjour à votre invité.
Voilà, disons quand même qu'un pas a été franchi, parce qu'on est parti du comité préparatoire à l'ouverture des travaux du dialogue, quand bien même faudrait-il encore mener des missions, des bons offices à gauche à droite pour arriver à mettre tout le monde autour de la table de consensus. Alors, quelles sont les chances aujourd'hui qu'on a que les uns et les autres parviennent vraiment à se mettre autour de ce point commun où on estime qu'il faut discuter pour dégager un consensus?
Bon, ce qui est vrai, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons reconnaître que de manière unanime, toute l'opinion, tant nationale qu'internationale, est d'accord pour que nous ayons ces dialogues. Contrairement à votre invité, moi je pense que lorsqu'on va dans un dialogue, c'est tout simplement pour aplanir les divergences. Et je ne pense pas qu'on peut avoir des dialogues sans qu'il y ait problème. Je ne pense pas non plus qu'on peut avoir de problème sans qu'il y ait intérêt. Donc, quelque part, nous devons savoir que aujourd'hui, il y a un conflit d'intérêts entre l'opposition et la majorité. Et ce qui est important, tout le monde est d'accord que nous ayons ce dialogue. Mais malheureusement, il y a un problème d'approche. Pour l'opposition, on voudrait qu'on résolve tous les problèmes avant que nous allions au dialogue. Alors que la majorité estime, pour sa part, qu'on devrait plutôt aller au dialogue pour déceler ce que nous appelons problème, afin de trouver de manière consensuelle des solutions aux problèmes. Lorsqu'on demande à la majorité présidentielle de libérer ce qu'eux appellent les prisonniers politiques, je ne sais pas ce que l'on entend par prisonniers politiques, mais il y a aussi des gens qui sont politiciens, qui sont arrêtés pour d'autres faits, qui ne sont pas politiques. Doit-on les libérer tout simplement parce qu'on doit poser cela comme exigence? Mais ce qui est important de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile, que ce soit à l'opposition comme à la majorité présidentielle, de s'en passer du dialogue. Vous avez vous-même dit que l'administration américaine a salué cette démarche du dialogue. De mon point de vue, cela doit mettre fin à cette nébuleuse crise qui a tenté de secouer ces processus de dialogue, à ce que certains estimant qu'on devrait respecter la résolution 2277 et que le dialogue devait être convoqué dans ce sens. Et aujourd'hui, l'administration américaine et derrière elle, la communauté internationale dans son ensemble, a dit à tout le monde que c'est ce dialogue que la communauté internationale s'attendait. Donc ce qui est important de mon point de vue, que l'opposition essaye de mettre de l'eau dans son vin, qu'elle arrive à se mettre d'accord sur le grand principe, c'est-à-dire la tenue du dialogue, et par la suite poser ses problèmes comme l'un des problèmes à résoudre par le dialogue. En ce qui concerne la démarche de M. Vital Kamerhe, j'estime de mon point de vue que c'est une démarche que nous devions en principe saluer, mais malheureusement il y a un problème. J'estime de mon point de vue que M. Vital Kamerhe est mal parti, du fait que lui-même déjà c'est un problème, et résoudre un problème par un problème, ça pose généralement deux problèmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la frange de l'opposition qui n'est pas d'accord sur la démarche du facilitateur ou de ce qu'il y a comme dialogue aujourd'hui, eh bien, n'acceptera pas de voir Vital Kamerhe s'ériger en porte-parole de l'opposition. Parce que de leurs analyses, ils vont se dire que lorsqu'ils vont répondre à l'invitation de M. Kamerhe, eh bien, ça serait pour eux d'accorder un chèque en blanc à celui-ci, et celui-ci risquerait de faire prévaloir le droit de représenter l'opposition. Parce que déjà au niveau de l'opposition, il y a un conflit d'intérêts. Mais c'est ce qu'il voudrait, c'est que lui puisse avoir le leadership de l'opposition. Alors que M. Kamerhe, tout en étant opposant, va aussi tenter de tirer la couverture de son côté. Alors entre les deux, personne n'acceptera de céder la place à l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la démarche qu'il est en train de mener ne va pas aboutir de mon point de vue, tout simplement, non pas parce qu'elle n'est pas bonne ou prenable, mais tout simplement parce que l'opposition n'acceptera pas d'avoir au-dessus de lui une autre personne que soi-même.
Alors, je vous rappelle, quand nous avons eu, il y a deux semaines, nous avions reçu Délice Sanga dans ce studio au nom de l'opposition, il avait insisté aussi à un certain moment pour dire, mais on ne va pas quand même, la majorité ne va pas trouver que l'opposition exagère en posant certains préalables parce que c'était à la majorité de pouvoir organiser les cycles électoraux, le financer, et que ça ait été fait. Il ne faut pas considérer que le problème aujourd'hui, c'est l'opposition. Il faudrait que la majorité reconnaisse que c'est moi qui le problème, c'est moi, parce que c'est moi qui n'ai pas financé les élections en temps, parce que j'en avais les droits et les pouvoirs.
Bon, moi j'estime de mon point de vue que M. Sissanga doit évoluer, parce que les choses ont aussi évolué. Ce qui est vrai, nous savons tous qu'il n'y aura pas élection, bien qu'on va pointer du doigt la majorité par le fait que la majorité a le pouvoir. Nous devons savoir qu'il y a d'autres paramètres sociologiques qui ont milité à ce que nous n'ayons pas ces élections. Il vous souviendra que la CENI avait proposé un calendrier et que la communauté internationale était prête à financer partiellement ces élections. Mais ce sont les opposants qui ont demandé à cette communauté internationale de ne pas financer au risque de faciliter le glissement. Mais aujourd'hui, que nous sommes en face d'une évidence, eh bien, M. Tsanga doit évoluer avec les choses et permettre à ce que nous ayons un consensus. Ce qui est important de mon point de vue aujourd'hui, ce n'est pas de dire que qui est responsable de quoi. C'est d'abord aller au niveau du dialogue,
c'est-à-dire des élections
politiques. À ce niveau, il y aura certainement des responsabilités. Parce qu'on ne doit pas aussi faire passer un événement aussi crucial que le processus électoral sans qu'il y ait des sanctions. On doit sanctionner des gens, on doit responsabiliser des gens. Et les responsabilités sont établies. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'éviter à ce que par notre agissement, que nous arrivions à mettre en mal la fibre sociale. Nous avons besoin que la classe politique ne puisse pas s'abdiquer de sa responsabilité et permettre à ce que nous arrivions à voir effectivement ces processus.
Merci.
Aujourd'hui, c'est un faux fuyant de dire que on doit convoquer encore un fameux dialogue par la résolution 2077, dès lors que le membre le plus influent du Conseil de sécurité a rappelé ou a réaffirmé son soutien à ces processus qui est déjà en cours. Et bien, l'opposition doit faire un effort de ne pas ajouter d'autres préalables. Vous avez suivi avec nous autres que l'opposition a ajouté 4 autres préalables qui touchent pratiquement au processus de l'enseignement de nos enfants, qui s'est permis même de demander aux enfants de ne pas aller à l'école. Heureusement, ici, à Issy, personne n'a respecté. Donc, quelque part, on ajoute des préalables sur le préalable, et ça donne l'impression que l'opposition est caractérisée par une mauvaise foi, qui voudrait voir les choses s'empirer, et puis chercher à tirer des dividendes politiques. Mais ce qui est important,
notre souci
majeur, c'est de préserver l'unité nationale.
Merci beaucoup, Alain. Il faut préserver l'unité nationale. On retourne à Kinshasa. Pensez-vous, Félicien, après avoir lancé les travaux, on a vu quand même que lequel ça a été peut-être difficile pour M. Vital Kamerhe de pouvoir mêler cette mission de bons offices. Mais d'un côté, il y a cet appel du gouvernement américain. Et vous l'avez suivi, Alain Boulogne a parlé tout à l'heure de la préservation de l'unité nationale. Avez-vous l'impression, depuis plusieurs mois que nous commentons ce sujet et l'évolution de la situation sur le terrain, qu'on peut enfin arriver à dégager un consensus autour de cette question des participations de tout le monde à ce dialogue de politique? Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, bonjour à votre invité, bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Okapi. Moi, le problème de ce pays, c'est le problème de médiocrité, le problème des anti-valeurs dans les chefs du peuple congolais en général et surtout de la classe politique en particulier. Si nous ne nous élevons pas pour que nous puissions aller vers l'excellence, et le pays va piétiner toujours comme ça, 56 ans après l'indépendance, et nous pourrons même arriver à 80 ou 100 ans, et ça sera comme ça, on se moquera de nous malgré tout ce que Dieu nous a donné. Vous pouvez comprendre que c'est depuis 2011 que le problème a commencé à se poser, et quand les élections n'ont pas été bien organisées, on ne savait pas exactement qui est le vainqueur, qui est le vaincu. Les voix sont élevées pour que nous puissions demander qui est dialogue, que les politiques se mettent autour d'une table et qu'ils puissent discuter et peut-être arriver à former un gouvernement d'union nationale qui puisse préparer de bonnes élections dans l'avenir, mais personne ne nous a écoutés. Et quand plus tard, ils ont fait des concertations, des ceci, cela, ils ont trouvé que ça n'a donné aucune solution utile pour la République. C'est à ce moment-là que le président de la République va décider vraiment de parler avec la vraie opposition, voyant surtout que les élections devenaient déjà, l'organisation des élections posait déjà des problèmes. Et en ce moment-là, c'est toute la classe politique qui a dit non, non, non au dialogue, surtout l'opposition. Et les majorités avaient dit non en 2011, mais quand le président de la République lui-même trouve que vraiment c'était nécessaire, cette fois-ci, en 2015 ou 2016, il va convoquer toutes les majorités derrière le président de la République, mais l'opposition dans son ensemble dit non. Il y a eu ce mandat de paix, son idée, et c'est un qui ont dit oui. Et tous l'ont critiqué pour avoir dit oui, tous ne trouvaient pas quel objet on va, quel est l'objet du dialogue, qu'est-ce qu'on va traiter dans le dialogue. Mais aujourd'hui, c'est étonnant que ceux-là qui ne trouvaient pas qu'est-ce qu'on pouvait aller faire dans le dialogue, soient les premiers à sauter dans les bateaux dialogue, de prendre les devants, parce que ceux qui avaient dit oui avant ont posé des préalables. Mais analysons ces préalables. Les préalables, quand on demande à la radio nationale, à la radio et télévision nationale d'être à la disposition du peuple congolais, c'est un préalable difficile à réaliser. Sommes-nous en démocratie ou pas? Et pourquoi ça veut prendre des jours? Mais moi, je pense que tout ce qu'on a demandé dans les préalables, et si vous voyez bien, le président de la République a déjà répondu à une grande partie, et ce qui reste, ça pose même aucun problème. Et les prisonniers politiques, dans une démocratie, on ne devait pas avoir des prisonniers politiques. Pourquoi nous, on les avait? Maintenant, on commence à les libérer. C'est-à-dire, nous n'étions pas dans une démocratie. Mais quand on est en train maintenant de crisper la situation, comme le président de la République lui-même avait dit que ce dialogue devait nous amener à la réconciliation nationale, nous devions sortir de ce dialogue plus unis qu'avant. Alors, qui sont ceux-là qui sont en train encore de mettre des bateaux dans les roues? Les présenteurs, ils viennent d'où? Mais ça vient de ceux qui entourent le président de la République et de l'opposition plurielle. Parce que qui signifie opposition plurielle? L'opposition plurielle signifie plutôt plusieurs ventres et surtout plusieurs ventres enfamés. Donc les ventres enfamés, il y en a beaucoup dans cette opposition-là. Alors ce sont ceux-là qui sautent du côté de l'opposition pour aller parce qu'ils savent qu'il y a une transition qui se profile à l'horizon. Et ils sautent là-bas, ils vont là-bas en demander d'emploi, des gens qui vont chercher des postes au lieu de suivre ce qu'ils étaient décidés avant ensemble, c'est suivre cette voie-là, ils posent des préalables et des préalables qui sont utiles pour décrisper la situation, l'atmosphère politique, et après aller ouvrir le dialogue et organiser la transition. Parce que nous sommes là déjà dans une situation de la démocratie à la congolaise. Parce que on a organisé les élections en 2006, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de transition. On a organisé en 2011. Mais si aujourd'hui, nous devons aller au dialogue, c'est ça la démocratie à la congolaise que nous avons toujours demandé depuis longtemps. Alors, que l'on voit des gens qui sont en train de courir pour le ventre, et de l'autre côté, des gens, quand le président de la République a signé l'ordonnance, et pour l'exécution, il commence à crier qui on va sortir, qui on va pas sortir. Mais la dénonciation de la vie politique, c'est pas pour le président de la République, c'est pas pour les politiciens, c'est pour tout le peuple congolais. Si nous voulons sauver notre nation. Et ce qu'on demande, c'est pas au ciel qu'on va aller trouver ça, pour qu'on dise comment on va aller au ciel pour aller chercher des réponses à donner à ce que l'opposition demande. Alors, moi, je pense que le problème, c'est Edem Kojo lui-même. Edem Kojo est venu consacrer la bipolarisation de la vie politique au Congo, et il dit, il y a l'opposition et la majorité. Mais non! La politique au Congo, il n'y a pas que l'opposition à la majorité, il y a la société civile, il y a les centristes, et les centristes sont même en grand nombre. Et ils sont organisés, et ils ont un regroupement qu'on appelle Force Centriste Indépendante de la République. Ils ne sont pas pris en compte. Mais ces centristes-là sont ceux qui font la vraie politique, parce que eux, au moins, ils soutiennent de bonnes actions, que ça vienne de la majorité ou de l'opposition. Mais ils ne sont pas dans le dialogue. Mais c'est eux qui crient au dialogue depuis le départ, on doit avoir un dialogue. En plus, ils aiment qu'on se pose lui-même. C'est un problème. C'est vraiment un Africain comme un Congolais. Il dit que la classe politique congolaise est versatile.
Alors, Félicien, si on peut se compter à ces niveaux-là, cela veut dire que vous dégagez le problème en termes de droits. Ça veut dire qu'il y a la majorité, il y a le problème que vous dites autour du chef de l'État. Il y a des gens qui n'aident pas à ce qu'on accède au préalable posé par l'opposition, et c'est déjà un problème. Du côté de l'opposition, vous estimez qu'il y en a qui vont parce qu'il n'y a pas un intérêt de la démocratie en question, que les gens y vont parce qu'on espère qu'il y ait des dialogues, on va avoir des postes en cas de transition, et vous revenez sur le facilitateur lui-même, que vous estimez qu'il y a aussi quelque part un schéma un peu biaisé dans sa démarche, dans la conception de participants à ces dialogues, et vous estimez que ce sont les trois problèmes qui se posent. Mais au début, vous avez quand même dit qu'il faudrait que les gens puissent aller au-delà des passions, au-delà de leur conception personnelle, pour qu'enfin on puisse résoudre la question autour de ce dialogue. Mais bon, il y a trop de gens, beaucoup de gens, beaucoup de structures qui voudraient bien sûr participer à ces dialogues. Et on sait comment ça se passe dans notre pays, mais sinon, on risque d'avoir un pléthore de participants. Et là, ça devient des fois difficile de pouvoir canaliser toutes ces énergies. Il y en a un record comme on est en train de les souhaiter. Merci beaucoup. Olivier Folo, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour la radio Capi, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs.
Mais alors, vous avez dit sur la page Facebook que c'est important hein, qu'on sollicite la suspension des travaux pour permettre à ce qu'on puisse arriver à convaincre tout le monde à pouvoir rejoindre les dialogues. Donc, vous écoutez Olivier.
Oui, je pense que l'initiative prise par M. Kamer pour suspendre les dialogues en vue d'aller convaincre d'autres, je pourrais qui jusque-là attendent encore qu'on puisse vider les préalables pour participer au dialogue. Il faudrait alors que le pouvoir en place ou M. Kose puisse suspendre le dialogue. Parce que ce dialogue, quand nous voyons, il n'est pas inclusif comme la convocation de l'ordonnance du président de la République nous dit. Le dialogue devait avoir tous les acteurs politiques en fait qui trouvent un compromis politique pour permettre à un processus électoral à plusieurs dans notre pays. Je pense que il faudrait qu'on puisse aller voir, parce que si on va pour le moment, on a un problème sérieux pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Nous sommes déjà au mois de septembre, or on devrait convoquer les élections au cours de ce mois-ci, le corps électoral plutôt, mais on voit qu'il est pratiquement impossible parce que jusque-là, il faut attendre les dialogues, qu'on puisse trouver un compromis politique, et puis là, on va aller soit aux transitions comme les autres le souhaitent, soit nous allons trouver un compromis politique pour que l'avenir de ce pays soit en paix.
Merci beaucoup, Olivier Solo. Vous estimez qu'il ne faut pas quand même qu'on oublie que l'ordonnance du chef de l'État convoquant les dialogues parlait du caractère inclusif. C'est pourquoi vous souhaitez la démarche qui a été initiée par Vital Kamerhe. Mais quitte à voir comment on peut arriver à convaincre tout le monde à pouvoir rejoindre ces dialogues. Il y a un autre ami, Alain Chilomba, qui nous a écrit de Kanaga, qui dit pour aller à la table ronde, Lumumba a été libéré alors qu'il était en prison. Pourquoi ne pas libérer ceux qui sont en prison, quand bien même la majorité estime qu'ils ne sont pas condamnés pour des faits politiques, pourvu qu'ils portent aussi ils portent leur voix dans ces discussions. Pour finir, si vous gardez la ligne, on va revenir à vous. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines.
Chaque jour, la fréquence de la paix ouvre le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Retour de province, vivez les informations avec le reporter de Radio Capi.
Nous revenons à vous, Étienne Duvan-Kalonji. Vous avez suivi les uns et les autres, les compatriotes, hein, le point de vue sont dégagés en termes de responsabilité. Mais en fin de compte, on peut dire qu'à un certain moment, cette question d'intérêt national risque d'être prise en otage, comme on le disait en début d'émission, par les politiques en termes aussi de leur conception, de leur intérêt, comme le disait tout à l'heure Félicien, qui est à côté du peuple de l'État. Il y en a qui réfléchissent en termes d'intérêt, ceux qui sont dans l'opposition en termes d'intérêt, et aussi la démarche du facilitateur. Mais l'idée, comme le disait Alain Bolloudoua, c'est enfin qu'on arrive à lever une option pour rejoindre Olivier, qu'on ait un processus électoral apaisé. Peut-on avoir un processus électoral apaisé dès lors que les discussions elles-mêmes ne sont pas sur ne sont pas basées sur une crédibilisation des discussions elles-mêmes pour enfin aboutir à ce processus électoral apaisé que tout le monde le souhaite?
Oui, pour vous rejoindre au mot, vous avez bien cité le mot crédibilisation. Je pense que quand on a l'habitude de suivre les politiciens, il faut vraiment se préserver de pouvoir écouter leur discours comme un amen, alléluia, à l'église. Moi, en tant que politologue, je sais très bien qu'un politicien, si vous devez bien le suivre, il faut le suivre par son agir politique. Il faut questionner les faits dont il est question dans son agissement politique. Les politiques au Congo nous ont habitués avec un système de la course aux intérêts mesquins. Et cela se caractérise, comme je le disais autrefois sur les ondes de la radio Capi, cela se caractérise par leur mode d'avènement politique. Nous avons assisté dans notre pays depuis les années 60 à un type de politique qui sont arrivés dans l'arène politique, dans l'espace politique, par le critère de nomination. Ils ne sont jamais habitués par le concours électoraliste qui permet à ce qu'un opérateur politique soit réellement élu et mandaté par sa base. Dès lors qu'il se comporte mal, il sera sanctionné par sa même base-là. Alors vous allez vous trouver que nous nous retrouvons avec un corps de personnes, un groupe de personnes nantis de privilèges et qui ne veulent pas céder leurs privilèges. Quand bien même que le régime peut changer, Mobutu parti, Laurent Désiré Kabila arrivé, et maintenant Joseph Kabila, on se retrouve dans les mêmes formes de personnes, dans les mêmes types de personnes qui du reste ne voient que leurs propres intérêts. Je répète fort que mon compatriote Alain Bologna se trouvant ici au l'endroit où j'ai pu avoir mon diplôme d'État. Je pense qu'en quittant la ville du Siro et allant vers Mendambo, mon frère Alain Bologna, vous voyez comment la route s'est détériorée. Quand vous prenez l'avenue Majos derrière le stade, vous voyez comment la dégradation s'est faite. D'ailleurs, ici, se trouvant nécessairement une province aujourd'hui enclavée, parce que le réseau ferroviaire n'est pratiquement plus existant, je pense que tout patriote conscient de cette dégradation de la situation sociale de notre pays doit avoir en lui un sens patriotique un peu avancé de se retrancher derrière les analyses politiciennes. Je veux tout simplement vous signifier que le concept de dialogue, nous devons ici l'appréhender dans la forme actuelle des négociations. Si nous l'appréhendons dans le sens des négociations, donc il va sortir de cette rencontre des accords qui pourront nous permettre à être respectueux de notre constitution. Parce que nous devons ici orienter toujours ce que nous avons comme problème devant cette usine qui est la constitution. Mm-hmm. La constitution représente l'âme d'une nation, la longévité d'un État. Un État qui se change de constitution du jour le jour n'a pas une stabilité totale. Voilà pourquoi lorsque les politiques se rencontrer dans le forme du dialogue, nous devons tous, en tant que patriotes, avoir l'appréhension des négociations qui vont s'opérer entre la majorité et la l'opposition. Parce qu'il faut juger l'opposition ici en termes d'ancrage politique. Il ne faut pas ici commencer à créer des opposants du jour et des opposants de nuit. Il faut voir quel est l'ancrage politique qui représente cette force que nous appelons opposition. Et c'est avec cette force-là qu'il faut ici s'accorder pour trouver une solution dans le sens patriotique afin de trouver, d'organiser des élections dans un climat apaisé. Mais dès lors que M. Kodjo, qui est venu pour nous faciliter dans les problèmes congolais, et lui-même qui au départ savait déjà que les problèmes congolais se résument par la majorité, représentée par le raïs, le chef de l'État, et l'opposition, représentée par la PNL qui est l'UDPS. Donc il va falloir chercher à ce qu'il se dégage ce consensus devant cette bipolarisation politique qui va nous permettre à ce que nous puissions connaître des élections dans notre pays d'une manière apaisée. Mais quand on fait le jeu d'ignorer les véritables forces politiques en présence et qu'on consacre des opposants pour amener les gens dans un forum dialogue à l'image de l'Assemblée, en fait, de dégager un consensus sur une majorité quelconque au sein de ces forums, c'est qu'on ne veut pas de temps toute conscience, trouver des solutions au Congo. Ici, je me rabats sur l'intervenant Alain Chilomba qui a parlé Alain Chilomba de Kinshasa. Il a évoqué le cas de Lumumba qui à la veille de notre indépendance a été relâché parce que Lumumba avait nécessairement avant la tenue de ce forum, avait initié une action de résistance active non violente pour que le Congo puisse accéder à l'indépendance. Et les colonisateurs l'ont fait arrêter pour le reléguer à Boulogne. Mais il a fallu voir le sens patriotique qui a été dans le chef des opérateurs politiques de cette époque, qui ont exigé que si nous devons parler le problème de l'avènement, de l'accession de notre pays à l'indépendance, nous ne pouvons pas aussi mettre de côté un opérateur politique de taille comme Patrice Emery Lumumba qui devait nous rejoindre. Voilà le sens patriotique qui a permis à ce que nous puissions céder à notre indépendance. Mais je regrette que lorsqu'on parle des opposants, je vois Ndiomi Ndongala au sorti des élections de 2011 qui se range derrière Etienne Tshisekedi pour réclamer la vérité des urnes. Et Ndiomi dérangeait beaucoup. Et de cette manière, nous connaissons comment en Afrique, lorsqu'on veut écarter un opérateur politique, on peut l'habiller de tout fait pour l'incriminer des faits de droit civil afin qu'il puisse aller en prison. Nous voyons encore tout récemment
un Jean-Claude Muyambo qui a toujours été dans la majorité. Et dès lors qu'il fait une déclaration aux médias pour dire désormais je quitte la majorité, je deviens opposant, et tous les crimes que Muyambo avait fait dans le passé ressortent et puis on crée quelque chose, on la ferme. Non, ce n'est pas du patriotisme lorsqu'on voit ce genre de choses. Il faut que ce soit les faits. Moi, en sens certain, nous disons que les faits sociaux sont têtus. Ils sont auto-globaux. Moi, ici, je ne fais pas des intentions, je vois les faits. Pourquoi un opérateur politique, lorsqu'il était dans la majorité, on ne l'a pas arrêté parce que ses crimes remontent des dates antérieures? Mais pourquoi lorsqu'il change de camp, il devient opposant, et parce qu'il est contre le régime, on doit chercher à le faire taire? Je vois le cas du professeur Wittim Lungo, en qui j'ai beaucoup de respect. Pour qui on a maintenant cessé, non, on a trouvé une arme dans ça. Vous pouvez vous imaginer un professeur d'université. Hein? La matière grise est une société. Vous dites qu'il a besoin d'une arme pour se protéger, qu'il n'avait pas le droit de garder cette arme. Et on le fait parce qu'il est à côté de Moïse Katumbi. Donc, on se dit.
Alors, pas... vous estimez que quand on répond, je vois ici les préalables décrits par l'opposition, le rassemblement qui estime que parmi les matières de décrispation de la situation politique, c'est aussi il ne faut pas continuer à harceler les opposants, il ne faut pas habiller les procès. Et vous estimez que aussi longtemps que au niveau de la majorité, on n'a pas encore conçu tous ces cas comme le cas d'harcèlement, comme les cas de gens qui ne sont pas considérés comme de prisonniers politiques, ça sera difficile aujourd'hui qu'on arrive à ces soucis que nous avons, c'est lesquels, ce sont les élections apaisées.
Ça sera difficile de se combattre. Parce que j'ai commencé d'emblée dans l'entrée du jeu de cette émission pour vous dire quand on part, quand on veut dialoguer avec un compatriote, on va avec sa conscience. On va avec la raison patriotique. On ne peut pas ici faire le jeu de la politique de l'autruche. Nous voulons la paix, nous voyons déjà que nous allons vers un mur. Et pour ne pas alors certains devant ce mur, nous devons nous entendre. Et nous vous disons, messieurs, nous ne sommes pas sincères parce que vous ne voulez pas que nous puissions vous rappeler à l'ordre, au respect de ce qui nous unit, qui est la Constitution. Bien nombre de nos compatriotes qui se sont évertués de dire cela, vous pissez dans la prison. Pour que moi et vous soyons autour d'une table, nous exigeons que ces gens-là sortent, parce qu'ils sont des opérateurs politiques, pas des moindres, qui sont avec nous dans notre démarche. Je pense que de toute conscience et de toute sincérité, je ne vois pas pourquoi on peut libérer ces gens-là par une classe présidentielle comme le chef de l'État l'avait déjà initié. Mais je vois ici toujours les défenseurs des groupes d'intérêt qui sont autour du chef de l'État, qui lui disent autre chose et dans leur action politique essayent de défendre ça autrement. Et je vois aussi même le facilitateur. En tout cas, c'est temps ici, le facilitateur ne nous aide pas. Le facilitateur devait d'abord se cantonner sur le problème de la décrispation de l'espace politique. Avant de lancer
les travaux.
Parce que là, nous sommes en train d'observer que nous allons encore dans des concertations bis. C'est-à-dire, un dialogue sans la véritable opposition, un dialogue avec des personnes qui se sont déjà d'abord tracé des calculs, demain tu seras Premier ministre, et toi tu seras ministre des Finances, telle personne sera ministre des Ceci, et puis par la suite, quelle est la part du Congo?
Voilà. Et comment on peut arriver à avoir la part du Congo? Professeur Ignace Ndala, vous êtes à Colusi. Ce qu'il vient de dire tout à l'heure, Étienne Vivien Kalonji, c'est très important. Quelle est la part du Congo? Pensez-vous aujourd'hui que la manière dont les politiques se comportent autour de cette question de dialogue, de quelle manière on peut arriver à s'en sortir et avoir ces consensus et les élections apaisées? Pensez-vous que la part du Congo est au centre de ces discussions, même les appels de la communauté internationale, qui arrivent vraiment, qu'il y ait l'intérêt du Congo qui soit privilégié pour qu'enfin ces dialogues aboutissent à quelque chose qui puisse permettre à ce que les Congolais vivent en paix, professeur Ignace?
Merci pour la parole. Je salue l'invité, monsieur Vivien Kalonji, que je suis souvent. Je crois que c'est ce qui devait être fait et c'est ce qui doit, l'intérêt du Congo. Mais regardez, j'aime beaucoup l'intervention de tout à l'heure de notre invité. Moi, je disais que quand on parle du dialogue, c'est d'abord la prédisposition des esprits de ceux-là qui doivent dialoguer. D'ailleurs, ici, est le cas de le redire, la forte implication du facilitateur. Moi, je suis de ceux-là qui fustigent un peu l'attitude, le comportement et même les différentes démarches du facilitateur hein, par rapport à l'organisation même du dialogue. Il devait beaucoup plus s'impliquer parce qu'aujourd'hui, personne n'a refusé le dialogue. Mais il y a un problème autour de cette organisation, autour des modalités et autour de ceux-là qui doivent participer. Incertainement, on a même l'impression que M. Edem Kodjo ne sait même pas qui doit participer au dialogue et quelles sont les revendications des uns et des autres. Je prends le cas de l'opposition aujourd'hui qui est à l'extérieur, qui pose des préalables. Je pense que c'est au facilitateur qu'il était question de s'impliquer nécessairement pour voir exactement que veulent ceux qui ne sont pas avec nous, au lieu que ce soit ceux qui doivent décrisper le climat, qui disent nous avons déjà beaucoup fait, ça suffit. Non, il y a ceux qui vont poser ce problème. Est-ce que vous êtes d'accord que ceux qui ont demandé trouvent satisfaction? Bien sûr, il n'y aura pas 100% de satisfaction. Hein? Donc là, c'est un problème au niveau du facilitateur. À un certain moment, je ne sais pas si nous voyons tous, on a comme l'impression qu'il est maintenant fatigué, il n'arrive pas à rapprocher les angles des vues ou à mettre tout le monde autour d'une même table. Voilà pourquoi on voit par exemple que ce n'est plus lui, c'est le modérateur de l'opposition que lui a choisi. D'ailleurs, il y a des plaintes à ce niveau-là. On ne sait pas quel a été le critère. Il y a des remous au sein de ceux qui participent, de la soi-disant mouvement de l'opposition, hein, qui se plaignent de ce modérateur du critère sur lequel on s'est basé pour le choisir. Vous comprenez que c'est déjà une confusion. Mais j'accepte à un certain moment le discours de celui-là qu'on a choisi comme modérateur, quand il estime qu'il faudrait l'inclusivité, il faudrait que les autres viennent. Il ne devait pas suspendre, demander la suspension pour aller vers la France de l'opposition qui est à l'extérieur. Ne suspendre par rapport aux préalables qui font que ceux-là ne viennent pas, parce que ça saute aux yeux. D'ailleurs, il les évoque pendant qu'il est en train de parler. Un autre aspect que je voudrais souligner, parce que vous m'avez accordé la parole, c'est le problème du point de vue du gouvernement américain. Le gouvernement américain n'a pas applaudi à proprement parler ce qui se fait là. Il constate qu'il y a une ouverture, il réitère son souhait que tout le monde soit là parce que c'est la seule voie où l'on doit se retrouver, cette voie qui n'est pas rejetée par tout le monde. Mais écoutez-moi, quand on parle du consensus sur lequel insiste le gouvernement américain, parce que c'est le mot-clé, le consensus ne peut pas être tiré dans un dialogue qui est dont le facilitateur est récusé, le dialogue dont la participation des uns est liée à certains préalables qu'on semble balayer. Moi, je pense que le gouvernement qui a commencé à décrisper le climat pouvait continuer. Kamer a même dit que ça ne salissait pas l'image, ça ne mettait pas à genoux le pouvoir, mais ça l'élevait. C'est une élégance politique. Mm-hmm. Ils ont commencé qu'ils y aillent carrément, parce que moi je me dis, quand on relaxe un peu le poursuit sur Katumbi-Chapwe, quand on va libérer les différents prisonniers, on ouvre les différentes chaînes d'opposition au Katanga et partout ailleurs, le pouvoir va prendre cela pour dire qu'il est élégant, il veut vraiment qu'on aille à un consensus. Alors, que l'on continue ce qu'on a commencé de dire que ça va faire l'objet de débats ou tout cela. Non, il y a une feuille de route, cela ne figure pas. Voilà à peu près comment moi je vois.
Si nous revenons un peu à que ce soit les chaînes qui sont fermées aujourd'hui dans les Katanga, si le pouvoir public, d'abord dans sa conception, n'estime pas que ces chaînes sont fermées parce qu'elles appartiennent à l'opposition, tout en estimant qu'il y en a qui n'ont pas payé l'impôt, ou soit des personnes qui sont condamnées ne sont pas condamnées pour des faits qui sont liés à leurs activités politiques. Notre invité de l'Isée tout à l'heure, c'est un fait aussi que le pouvoir parvienne à reconnaître que non, si je libère ces gens, c'est que je reconnais que les procès étaient manipulés pour les condamner, pour les écarter de la scène politique. C'est ça aussi un problème. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir est prêt à reconnaître que non, telle chaîne de telle politicien qui a été fermée parce qu'on l'a accusé de n'avoir pas payé l'impôt, si je réouvre cette chaîne, c'est là que je vais dire que j'accepte que je l'avais fermée d'une manière arbitraire, que ce soit pour ceux qui sont condamnés. Voilà un peu là où peut-être Félicien disait tout à l'heure qu'on aille au-delà.
Oui, allô?
Oui, professeur.
Oui, je voulais simplement dire que j'ai évoqué le cas de l'élégance politique en libérant certaines chaînes, même si elles auraient eu un petit doté, en les libérant. Ça ne réduirait pas le pouvoir. Ils verraient ça d'ailleurs comme un motif de campagne, comme on le veut bien, pour montrer qu'ils ont été au-delà de leurs sentiments, mais ils ont privilégié l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Parce que, croyez-moi, Edem Kodjo n'a aucun intérêt du malheur des Congolais. Qu'est-ce qu'il perd s'il peut rester encore à travailler avec nous dans nos discussions et qu'il va gagner son pain? Lui, c'est le travail. Est-ce que Edem Kodjo a le temps de voir ce qui se passe à Beni ou ailleurs? Peut-être dans le discours, mais dans son fort intérieur, il n'est pas congolais. Voilà autant de réalités.
Merci beaucoup, professeur Ignace. Valérie, vous êtes à Kindu, mais rappelons quand même qu'il y a une fois que je suis sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, depuis que le sujet a été publié, Félix et Tumagamoza de Kananga estiment que ça va être impossible aujourd'hui pour, surtout que la démarche vient du président Vital Kamerhe, de pouvoir convaincre les autres dès lors que la question au centre de tous les préalables qu'ils ont posés, ça n'a pas été résolu. Augustin Zoukou dit que la démarche de M. Vital Kamerhe reste louable en termes d'inclusivité de ses forums, mais ça va être très difficile pour lui à le faire parce que sa participation au dialogue n'est pas surtout d'un consensus avec les autres membres de l'opposition. Valérie, vous êtes à Kindu. Bonjour Valérie.
Et bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kindu.
On vous écoute Valérie.
Bon, en fait, ok, lorsque je vois la situation telle qu'elle se présente, il ne s'agit pas d'abord du dialogue. Il est vrai qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est contre le dialogue. Bien au contraire, il y a peu, on a constaté qu'il y avait une frange de l'opposition qui était les anti-dialogue, mais depuis que cette frange s'est diluée dans le rassemblement au niveau de Gerval, à partir de ce jour-là, tous les peuples congolais sont d'accord pour le dialogue, mais c'est au niveau des formes ou des formats à donner au dialogue. Alors, aujourd'hui, nous avons vu le président Sassou venir ici, rencontrer le président Joseph Kabila et le président du comité de sage du rassemblement. Ceci signifie que les tractations ont commencé pendant que le comité préparatoire était en train de se réunir. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, nous voyons que le dialogue de Béatrice Hôtel vient de connaître son évolution avec une frange de rassemblement tels que Monsieur Vital Kamerhe et autres. Et de l'autre côté, nous avons les rassemblements qui ont aussi sorti sa feuille de route. Moi, je me dis, nous tendons vers une dissolution du dialogue de Béatrice Hôtel ou de Béatrice. En ce sens que demain, ça sera soit le dialogue qui va réunir d'un côté les camps de Béatrice et les camps des rassemblements, ce qui est tout à fait normal, d'autant plus qu'il y a deux feuilles de route différentes. Le dialogue doit s'axer autour des divergences afin de trouver un point commun. Et puis, ou alors, ça sera seulement le dialogue ultime entre le président Joseph Kabila et le président Tshisekedi autour d'un autre médiateur ou du médiateur président congolais Sassou Nguesso. À ce moment-là, ce nouveau dialogue-là va supplanter ce qui est de Béatrice Hôtel et on va évoluer. Parce que nous devons savoir qu'il y a aussi la politique de couleur et la politique officielle. Si officiellement il y avait Béatrice Hôtel, et que soudainement, nous voyons le président congolais qui apparaît avec un autre dialogue, cela signifie que dans le couloir, il y a autre chose qui se trame. Alors, s'agissant de Vital Kamerhe, quelle que soit la portée du message, le fond de son message, mais moi je pense qu'il est mal parti au niveau de la forme. Pourquoi? Parce que lui étant du rassemblement, le rassemblement avait décidé de ne pas le participer. En principe, il devrait d'abord faire valoir sa position au sein du rassemblement. Vous ne voulez pas, mais moi je compte y aller, voilà. Mais dès lors que le rassemblement se réveille un matin, on apprend que quelqu'un de nôtre fait déjà partie de ce dialogue, le rassemblement a jugé cela une trahison. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, l'opposition dans son ensemble, réunie au niveau, disons, la frange de l'opposition, réunie au sein de Béatrice Hôtel, sera surprise que voilà, M. Vital Kamerhe vient d'être désigné comme modérateur. À ce moment-là, si ça ne mérite pas. Alors, vous comprenez que, avec tout cela, il n'a pas préparé les opinions pour qu'on comprenne sa position, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Mais ce que vous avez dit, Valérie, vous avez quand même dit quelque chose d'important que Mme Josephine de Boston a rappelé la semaine passée dans nos émissions, où il estimait que si on peut considérer que la crise qui des 2011 était entre deux personnes et qu'aujourd'hui, au niveau de ces dialogues, il y a des gens qui rapprochent d'un côté le président Joseph Kabila et d'un côté le président Étienne Tshisekedi, je crois que Vitaly Kamerhe l'avait dit même dans nos émissions ici, on l'avait reçu dans Parole, seul, il estimait qu'aujourd'hui, pensez-vous que si Joseph Kabila et M. Tshisekedi se mettaient autour d'une table et discutaient autour de la situation politique, on croit que beaucoup de questions peuvent être résolues, mais vous estimez quand même que c'est déjà un départ, parce que rappelons quand même que le rassemblement a dû déposer au niveau des chancelleries sa feuille de route pour les dialogues, et c'est déjà une ouverture, on peut arriver à concilier les uns et les autres. Merci beaucoup Valérie. On va terminer avec le dernier auditeur, Antoine, qui est au Mozambique, et lui qui est en Bandaga. Antoine, vous êtes avec nous. Bonjour Antoine.
Mm-hmm.
Antoine, vous êtes
bonjour,
avec nous.
Bonjour.
Oui, on vous écoute.
Bonjour.
Bonjour Antoine, on vous écoute.
Oui,
Antoine.
Je vous écoute, bonjour.
Oui, nous sommes avec vous.
Je vous suis dès le début de ce programme, mais je voulais seulement donner ma modeste contribution en ce qui compte.
Dommage, on a des petits soucis de lui avec Antoine. Oui, allez-y Antoine, oui.
C'est dommage. Oui, c'est dommage que, bon, effectivement, l'image que le Congo donne à l'extérieur, c'est une image vraiment tronquée et une image vraiment triste. C'est-à-dire que quand on parle du Congo à l'extérieur, on fait allusion à un pays désorganisé, un pays sans loi. Et alors, tout ce qui se passe là concernant le dialogue, vous m'excuserez de vous dire que moi, personnellement, je suis d'abord pessimiste quant à l'issue de ce dialogue. D'abord, pourquoi ? Parce que pourquoi est-ce qu'on va organiser ce dialogue en ce moment crucial? Parce que nous sommes justement vers la fin du mandat du président de la République. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu organiser ce dialogue il y a un an ou deux ans? Pourquoi on va le faire maintenant? Donc il y a quelque part une volonté manifeste de ne pas vouloir changer les choses. Et ça c'est triste. Moi je ne peux pas vous mâcher les mots, j'irai tout droit au but, je vous dirai sincèrement. Que la majorité, tout ce temps, a fait ce jeu pour qu'on puisse arriver à cette situation. Parce que, imaginez-vous, aujourd'hui, on avance l'idée de dire que non, la situation, nous sommes dans une crise, il faudrait qu'on trouve des solutions. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à cela deux ans en avance? On va seulement penser maintenant. Et tout ailleurs, là, j'ai suivi les autres qui sont passés un programme, bien sûr qu'ils se disent oh, c'est une manière de pouvoir résoudre le problème entre nous, mais nous ne sommes pas nés hier. Nous avons suivi, moi aujourd'hui depuis 55 ans, mais nous avons suivi l'histoire avec Mobutu, les accords du palais de Marbre 1, palais de Marbre 2, les accords d'Insolé et tout ça, qu'est-ce qu'il a donné. Et aujourd'hui, même la plupart des politiciens qui se retrouvent au dialogue là, est-ce que réellement ils suivent une base? Allons-nous quand même dire quand même les choses. Mm-hmm. Ce sont les groupes de gens
qui sont pour moi. C'est important que vous avez dit, parce qu'il faut permettre aussi à Élie de s'exprimer. Rappelons quand même, parce que vous avez le souci, vous l'avez demandé, mais pourquoi on n'a pas fait ce dialogue il y a un an ou deux ans. Rappelons quand même que c'est juste à la sortie des élections 2011, qu'est-ce qui s'était dit, il y avait insisté, qu'il y a un dialogue, et c'est ça là, rappelons, que nous avions eu les débats avec ceux de la majorité présidentielle qui disaient que les pays n'étaient pas en crise, mais qu'on n'avait pas besoin d'un dialogue, les institutions étaient déjà installées, et vous estimez que tout ça c'était il y a des temps et vous êtes pessimiste par rapport à ça, vous ne voyez pas de quelle manière aujourd'hui on va s'en sortir et pourtant le problème était d'organiser les élections, s'il fallait dialoguer, il fallait le faire longtemps avant plutôt qu'il y ait à la veille de la fin du mandat du chef de l'État. Merci beaucoup Antoine de nous avoir appelé de Mozambique. On va terminer avec vous Elie, vous êtes en Bandaga, vous avez suivi les uns et les autres votre point de vue avant de permettre à notre invité de conclure cet échange Elie.
Bonjour, je salue tous les auditeurs de la radio Kapi. Et je vais commencer d'abord à rappeler les Congolais de pouvoir un peu comprendre comment a été-il sincèrement la présence de l'équipe scolaire pendant la tenue et le début du dialogue de ces jours dès le 1er septembre. Donc, à mon avis, je suppose que quand vous voyez l'équipe solaire, c'est plutôt rencontre des soleils et la lune. C'est pour cette raison il aurait pu y avoir la rencontre de l'opposition et la majorité. Mais quand on voit les clips, c'est comme
de manière... Là, Elie, vous avez rejoint l'explication avec laquelle il dit que les clips, c'est la couleur des deux. Et là, vous avez rejoint la compréhension africaine de l'éclipse en termes de la colère des dieux, et vous auriez souhaité voir à travers cette éclipse la rencontre entre l'opposition et la majorité pour mettre fin à toutes ces choses. Merci beaucoup Elie de nous avoir appelé de Mbandaka. Nous revenons à vous Étienne Vivien Kalonji. On a suivi les uns et les autres. Le souci est hein, et qu'on puisse quand même arriver à s'en sortir, parce qu'il faut qu'on évite, comme tout le monde l'a dit, il faut éviter les chaos, il faut éviter la violence, il faut éviter ces cités-là. Vous êtes chercheur en résolution non violente des conflits. Qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà de tout ce que nous avons dit dans cette émission pour conclure?
Au-delà de tout ce que nous avons parlé, je veux rappeler quelque chose à nos très chers compatriotes que je salue très bien de leur participation et de leurs différentes contributions. En fait, le champ politique, il est régulé par le jeu de rapport de force. C'est un espace qui est un monde magique, monde aléatoire et monde des imprévus. Et demander à un politicien de pouvoir être conscient de son agir politique, c'est rêver. Qu'est-ce qui se passe? Nous, qui sommes chercheurs à la question de la résolution non violente des conflits, nous estimons que la pensée d'Alain Touraine, elle est très magnifique. Donc la conception de la démocratie moderne qui consiste à permettre la pénétration du plus grand nombre de citoyens dans le processus décisionnel. À l'heure actuelle, ce sont les citoyens congolais qui doivent nécessairement s'approprier du processus décisionnel. Les opérateurs politiques de l'opposition qui pensent que les problèmes des Congolais peuvent se résoudre par des rencontres de conciliabilité sont en train de régler. Parce que le champ politique il est régulé par le jeu de rapport de force. Dès lors qu'il ne s'associe pas avec l'opinion nationale pour créer cette auto-prise en charge du processus décisionnel, exiger que la constitution soit respectée dans un activisme civique non violent, si cela ne se fait pas, ils seront toujours désorientés, dribblés par la majorité, qui du reste ne trouve mieux que des conseils de pouvoir.
Merci beaucoup, Étienne Vintalongi. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes politologue et chercheur en résolution non violente des conflits. Merci à toute l'équipe. Vous avez été nombreux à suivre cette émission. Mais n'oubliez pas toujours que les débats continuent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. On se retrouve demain pour un autre numéro. Merci à toute l'équipe de production. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde. Julie Fézard Bongonda était à la réalisation et au standard. Et puis, Aurélie Lamé, je vous ai présenté ces magazines sur la supervision de Julien Namouini, l'émission et sur www.radiocapi.net. Merci. Au revoir. Thank you.